Michel Bonnet. Aujourd'hui, nous allons sortir des grands sujets, comme on parle sur la femme, sur les hérétiques, etc., etc., pour parler d'un objet très précis, une des richesses de Cordes. On appelle ça le libre ferrat. Ferrat, ça vient du mot fer, ferré. Pourquoi ? Parce qu'il était attaché par... C'est un document qui était attaché à, dans une pièce, la maison des consuls, attaché par une chaîne en fer. Alors, tout le monde connaît un peu, je pense, le livre ferrat. C'est assez particulier. Mais enfin, ça vaut peut-être la peine d'en parler un peu, de faire une émission là-dessus, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et surtout, on a du mal à se rendre compte, je trouve, avec les discussions que j'ai à droite à gauche, à se rendre compte de l'importance qu'avait ce livre ferrat au moment où il a été fait à Cordes. Disons la fondation de Cordes, parce qu'on ne sait pas la date à laquelle il a été composé exactement. Enfin, on va en parler. Il s'agit d'un livre qui fait à peu près, enfin pas à peu près, exactement 240 pages, d'un format un peu plus grand qu'un format de papier machine, vous voyez. Et c'est du parchemin, c'est pas du papier, c'est du parchemin. Et ces feuilles de parchemin ont été reliées entre elles pour former un seul volume. Et ce volume, comme il était précieux, à un moment donné, on l'a relié de façon très forte avec une reliure en bois, laquelle reliure était entourée de cuir en plus, et de façon à ce qu'on puisse y attacher une chaîne en fer, et avec cette chaîne, il y avait une clé, bien sûr, un cadenas, une clé, et le livre en question pouvait donc être fixé à un mur quelque part, et on ne pouvait pas le prendre, le voler ou s'en servir n'importe comment. Ce n'est pas spécial à Cordes, c'était assez fréquent. On en retrouve par-ci, par-là, et pas seulement des livres comme le livre ferrat sur les règles du consulat ou des choses comme ça. Quelqu'un voulait faire un cadeau, par exemple, on a voulu faire un jour un cadeau à l'église de Saint-Michel, ici à Cordes, et le gars qui a offert ce bouquin, un livre avec des enluminures, etc., il a dit c'est à la condition qu'il soit attaché avec une chaîne en fer sur un des murs de l'église, vous voyez. Il voulait que ça reste, donc voilà. Alors, nous allons essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est que ce livre fera aujourd'hui, un peu dans les grandes lignes, mais surtout, ce qui me paraît important, c'est de se rendre compte de ce que cela pouvait signifier pour les gens de Cordes, au moment où il est sorti. Parce que ce livre, il faut savoir qu'il y a des choses écrites depuis le début, mettons depuis le 12e, 13e siècle, pas le 12e, non, mais le 13e ou 14e siècle, on va en parler du moment où il a été écrit, jusqu'à tout récemment, puisque la dernière mention qu'on a, c'est celle du 7e centenaire de Cordes en 1922, vous voyez. Donc ça recouvre toute l'histoire de Cordes. Alors là-dedans, on a donc ce livre. Et on voit à l'écriture qu'il a été écrit à différentes époques. Quelquefois, il y a des dates, mais très souvent, il n'y a pas de date. C'est l'écriture qui change. Et je vais m'occuper aujourd'hui uniquement des premières pages qui sont marquées de façon très, très visible par la même écriture. Donc, on sait que ce sont les premières pages, c'est là où le livre ferrat a commencé. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand on l'ouvre immédiatement? Qu'est-ce qu'il y a? Je laisse de côté des annotations qui ont été faites par des archivistes, etc., au cours des siècles. Ça n'a pas d'importance, hein. Le premier document qu'on a, très bien écrit, en lettres gothiques du Moyen-Âge, enfin gothiques, on appelle ça les carolines, bref, ce sont un ensemble de textes de 5-6 pages, qui présente des textes d'évangile. Il y a une phrase qui dit « Voici le texte de l'Évangile qui commence avec Saint Jean. » Et puis on a une partie du texte de Saint Jean, une partie de l'Évangile de Matthieu, de Luc, de Marc, enfin les quatre évangélistes, il y a un texte. Peu importe ce qu'il y a sur le texte lui-même, c'est simplement la mention que c'est un texte d'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de Corde? Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas le texte de l'Évangile qui est intéressant à regarder, c'est-à-dire c'est pas fait pour être lu. C'est le signe d'une présence, la présence de Dieu dans la vie de Corde. Pourquoi? Parce que lorsque les consuls, par exemple, étaient élus, ils étaient élus par la population, ils étaient nommés, etc. Mais ils devenaient consuls lorsqu'ils posaient leurs mains sur le livre ferrat, c'est-à-dire sur ce texte d'Évangile, en disant « Je jure que je suivrai les règles, etc. etc. » Et donc, ils avaient la caution de Dieu, qui était considéré comme un acteur. Ça, on le sait, je pense que vous êtes habitués, si vous suivez un peu les émissions, nos émissions de Corde 2022, à ce fait qu'à l'époque du Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe siècle, la religion était extrêmement importante et surtout, elle était vue comme une compagnie de Dieu. Dieu vivait en compagnie avec nous, on vivait en compagnie d'eux. Enfin, Dieu était présent dans la vie de Corde. Et ça se marquait, donc, notamment par cette présence du texte d'Évangile. Si bien que, si on veut se rendre compte de ce qu'était le livre ferrat, en fait, il faudrait penser un peu au monument aux morts de Corde, vous voyez. C'est un monument qui rend compte d'une présence. Le monument aux morts, bon, on n'y va pas pour lire les noms des morts chaque fois qu'on va se promener ou chaque fois qu'on va au cimetière. On sait que ce sont les morts de la guerre de 14 qui sont représentés là. C'est un rappel, c'est un souvenir d'acteurs de la vie de Corde qui ont été importants pour la vie de Corde ou la vie des environs ou du pays, etc. Vous voyez. Donc, on se met en face de quelqu'un qui est présent et avec qui on a envie d'être, disons, en bon terme. Voilà. Donc, ce livre ferrat, la première chose qu'il nous rappelle à nous aujourd'hui quand on l'ouvre, c'est que Dieu agit au milieu des cordés. Dans la mentalité de l'époque. On ne parle pas d'aujourd'hui dans notre mentalité à nous. Hein. Et on peut croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, etc. Oui. Mais à l'époque, le livre ferrat, c'était déjà la présence de Dieu parmi nous. On va s'arrêter une minute avant de revenir là-dessus.
Mes bien chers frères, que le rock soit avec vous.
Et avec CFM.
CFM, l'esprit rock.
Vieux formula.
J'ai du cash à blouer sur la jolie Chloé. Elle m'invite à danser. J'ai le feeling qu'elle me trouve trop. Elle me fait des sourires. Est facile à faire rire. Des histoires à me dire. J'ai le feeling qu'elle me trouve trop. À connaître-vous. À chanter toutes les chansons. Un chantal de nous. Je le porte comme un champion. Ma tête, elle me dit non. Mon wallet arrive au fond. Mais ce soir, je suis in love.
Mais là, j'ai plus une scène.
Tellement naturel, pis elle sent la cannelle. Elle va pas à chapelle. J'ai le feeling qu'elle me trouve trop. Quand l'alarme a sonné, a de l'amour à donner. Mon cœur elle l'a volé. J'ai le feeling qu'elle me trouve trop. À connaître-vous. À chanter toutes les chansons. Un chantal de loup. Je le porte comme un champion.
Awards 2022, Michel Bonnet. Nous parlons donc du livre Ferrat. Après ce premier bloc de quelques pages sur des textes d'évangile, présentant des textes d'évangile, qu'on pourra étudier peut-être un jour, mais ça n'a pas d'intérêt, puisque ça rend simplement Dieu présent dans, comme acteur de la vie de Corde. Il y a ensuite un deuxième texte assez long, qui est de la même écriture, donc qui a été écrit au même moment, et on ne sait pas encore la date, hein, et c'est une décision de Eustache de Beaumarchais. Eustache de Beaumarchais était le représentant du roi de France à Toulouse, était le grand sénéchal de Toulouse, et donc c'est lui qui prenait des grandes décisions pour l'ensemble de la région, et Corde dépendait de Toulouse. Et ce texte-là, ça nous dit une chose, c'est qu'il a été écrit, c'est écrit noir sur blanc dans le livre Ferrat, en 1273. Donc déjà, ça nous donne une date, on sait que le livre Ferrat n'a pas pu être écrit avant 1273. Et ce texte de Beaumarchais est extrêmement intéressant parce qu'il reconnaît à Corde le droit d'avoir une foire annuelle évidemment, jusque-là, jusqu'à cette date, jusqu'en 1273, donc pendant 50 ans, il n'y a pas eu de foire à Corde, il y avait simplement des marchés. Marché hebdomadaire, quelquefois deux fois par semaine, enfin, peu importe, les consuls faisaient comme ils voulaient, et oui, mais il n'y avait pas de foire. Et ça, c'est important à se rendre compte, parce que le marché, c'est une habitude qu'on a, mais pour le village, pour la commune en question, à cette époque-là, c'était important. On n'avait pas les supermarchés comme aujourd'hui, Leclerc, Champion et tout le reste. Hein. Non, non, une fois ou deux fois par semaine, on se réunissait sur les lices, sur la place principale de Corde, en haut ou bien ailleurs, à la bouteillerie. Où, vous voyez, ça dépendait, ça dépend aussi de ce qu'on vendait. Et donc, on échangeait, on faisait du troc entre des œufs ici, un morceau de un poulet par là, une tranche de jambon un peu plus loin, ou bien des cordes, du cuir, du tissu, etc. Voilà, le marché qui servait pour la vie quotidienne. Avec la foire, tout change. Parce que la foire, elle se fait à Corde, mais elle ne se fait pas pour les Cordiers uniquement. C'est pour tout le secteur environnant, c'est-à-dire pour l'Albigeois, ce qu'on appelait à l'époque l'Albigeois. Là aussi, vous souvenez, quand on a parlé de la fondation de Corde par Raymond VII, qu'il ne s'est pas d'abord préoccupé de créer une ville, si on peut dire une cité sur le piège de Mordagne. Il pense le territoire de l'Albigeois, c'est-à-dire tout ce qui se trouve, pour lui c'est extrêmement important, tout ce qui se trouve entre le Tarn et la rivière donc du Tarn et le Viaur suivi par l'Aveyron. Donc ce grand triangle qui part finalement de la forêt de la Grésigne et qui va très loin, il va jusqu'à Ambialé de l'autre côté, vous voyez là-bas, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'était pas juste ici à côté. Et donc la foire, elle touche tout ce territoire, elle aide aux échanges économiques, elle aide les gens de la région, les paysans, les travailleurs, les artisans, les tisserands, les marchands de cuir, les fabricants de chaussures, etc. Enfin, tout ce qu'on pouvait fabriquer et vendre. Elle montre que Corde est devenu un centre économique, un centre de production et un centre de commerce important, un centre marchand important. Et ça, c'est intéressant à avoir, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que le sire de Beaumarchais, quand il a pris cette décision comme ça dans l'air, c'est que pendant des années, les gens de Corde ont fait du lobbying, les marchands, les banquiers, les tisserands, etc. Ils ont demandé au pouvoir, parce qu'ils n'avaient pas le droit de lancer eux-mêmes une foire, ils ont fait de pression pour arriver à avoir une foire. Parce que, évidemment, une foire, ça draine du monde, ça provoque des paix péages, des taxes, des impôts divers, des échanges, des connaissances. C'est un grand brouhaha, c'est extrêmement important. Ça dure aussi des fois plusieurs jours. Et donc, c'est intéressant. Voilà, donc là, on a un signe extrêmement intéressant, c'est que en 50 ans, Cordes est devenu un centre économique assez important pour avoir une foire. Et il n'y en avait pas beaucoup. Pensez qu'une foire, elle part d'ici jusqu'à de l'autre côté de Carmo, d'Ambialé, Requista. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, c'est, on y venait de nombreux endroits, pas seulement d'ici de cette région-là, mais d'ailleurs aussi. Voilà. Et là, ça nous rappelle une chose, c'est que le but que Raymond VII, quand il a lancé Cordes, le but qui s'est fixé, c'est de faire de Cordes un centre économique, un pôle économique, ce qu'on appellerait en termes modernes un pôle économique, c'est-à-dire un pôle de développement, mais basé non pas sur les guerriers avec un château fort, un seigneur, etc., pas basé non plus sur la vie religieuse avec des moines, avec un évêque ou un archiprêtre, etc. Non, il a voulu que la communauté de Cordes, ce soit des travailleurs qui puissent faire du commerce avec leurs produits. Donc, un centre économique. Il croyait fermement au développement d'une communauté à partir de son économie. Et justement, le livre fera, avec ce texte qui vient immédiatement après l'Évangile, il nous rappelle cette présence du fondateur de Cordes en disant « Cordes, c'est d'abord un lieu où on travaille et où on commerce ». Ça, c'est extrêmement intense, c'est très moderne.
CFM.
CFM. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Those shoes will go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the West Coast? Oh, I'd move heaven behind those eyes. Today my heart swings. Yeah.
de 2022, Michel Bonnet. Nous continuons sur le livre Ferra. Nous avons vu qu'il y avait une première série de textes qui étaient des textes d'évangile qui marquaient la présence de Dieu comme acteur de corde. Et ensuite, le deuxième texte important qu'on a, c'est la décision d'Eustache de Beaumarchais de permettre une foire à corde en 1273. C'est suivi d'ailleurs, il y a le texte de Beaumarchais, et puis il y a quelques pages suivantes qui sont de la même écriture, donc qui ont été faites au même moment, où on indique des tarifs, des règlements, comme dans toutes les foires, ce qui veut dire, soit dit en passant, que le texte a été écrit dans le livre Ferra, plusieurs années après, puisque c'est avec l'expérience que on peut savoir quels sont les tarifs pour ceci et pour cela. Voilà donc cette deuxième partie du texte du livre Ferra. Pas la peine aujourd'hui d'aller dans le détail. Bon, c'est l'organisation d'une foire. Ça, c'était intéressant. Et puis, il y a le troisième texte, toujours de la même écriture, la même encre, la même plume d'oie, si on peut dire. Vous voyez, on va pas aller passer ça à des analyses chimiques poussées. Ça, pour les gens qui savent lire cette époque-là, ça va de soi. On est là sur le même texte. Et là, on tombe alors là sur quelque chose d'extrêmement intéressant, de très nouveau, qui attire l'attention. C'est une quinzaine de pages. Ça en fait quand même, hein. Une quinzaine de pages qui présente un calendrier. Et un calendrier, ce qu'on appelle le calendrier universel. C'est-à-dire qu'il y a, pour chaque mois, une page. C'est écrit tous de la même façon, c'est très joli, il y a des couleurs, il y a du rouge, il y a du noir, il y a un peu d'or quelquefois, mais assez rare parce qu'ils étaient assez fous. Je pense pas qu'à Corde, ils voulaient mettre de l'argent dans une écriture trop chère. Quand on compare avec d'autres calendriers écrits à Albi, Albi était un grand centre d'un scriptorium hyper connu au Moyen-Âge, très 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 réputé, et qui a fait des manuscrits merveilleux. On peut aller aux archives départementales ou nationales voir ces produits du scriptorium d'Albi, merveilleux. Est-ce que le texte de Corde a été écrit par des copistes d'Albi? On n'en sait rien, peu importe. Qu'est-ce que nous amène ce calendrier? Ben, ce calendrier, il est extrêmement important, parce que toute la vie d'une communauté, la vie donc de Corde, à cette époque-là, dépend de la fixation du jour de Pâques chaque année. Vous savez que chaque année, le jour de Pâques change. Aujourd'hui encore, et depuis toujours, ça a été comme ça. Et donc, chaque année, il fallait fixer quel jour Pâques allait tomber. Évidemment, les gens le fixaient pas n'importe comment, c'était pas libre, c'était fixé par l'ensemble de l'Église catholique, mais elle avait des règles de fixation et les gens devaient les savoir. Alors, la fête de Pâques de toujours, si on voulait résumer, parce qu'on va pas descendre dans les détails, Pâques est choisi comme le premier dimanche qui vient après la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Donc vous voyez, faut trouver quand se passe l'équinoxe de printemps. Après ça, faut calculer quand va avoir lieu la pleine lune après l'équinoxe de printemps. Et après ça, on regarde quel est le premier dimanche qu'on va avoir. Et c'est ce jour-là qui sera Pâques. Donc le calendrier, il sert d'abord à tout le monde à savoir à l'avance. On peut le savoir, grosso modo, c'est un calendrier qui marche sur 513 ans exactement. Et donc il y a quand même de la place, on peut dire, c'est assez, on peut dire perpétuel, quoi. Parce que c'est basé sur l'astronomie. Et c'est ça qui est intéressant à regarder, c'est que c'est en observant les astres que depuis des siècles et des siècles, même on pourrait dire des millénaires, parce que ça remonte à bien avant les Gaulois, bien avant les Romains, bien, vous voyez, les Égyptiens, les Persans, etc. C'est depuis toujours, on a observé les étoiles, etc. Et donc, ce calendrier nous montre l'importance énorme qu'il y avait à observer le Soleil et la Lune, puisque tout est basé sur la conjonction du Soleil et de la Lune. Vous savez que le Soleil et la Lune ont un cycle différent, et ils tournent autour de, peu importe, leur lumière nous apparaît selon deux rythmes différents, mais ces rythmes, ils se retrouvent tous les deux à commencer un nouveau rythme une fois tous les 19 ans. Et donc le calendrier, et le livre Ferrat nous permet de découvrir cela, c'est qu'on compte tous les 19 ans, on sait qu'on va avoir le même rythme qui va venir. Et donc ce jour-là, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Le chiffre d'or, c'est que c'est le numéro 1 sur une liste de 19 ans. Pendant 19 ans, ça ne changera plus. Et sur le calendrier, c'est très bien marqué. On a une colonne, et en fonction de, sur cette colonne, on marque à moins 17, moins 16, moins 13, moins 12. Vous voyez, c'est par rapport au nombre d'or. Et on a, pareil, une deuxième colonne qui indique avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, ce qui sont les 7 premières lettres de l'alphabet, le A étant toujours le dimanche, le premier jour de la semaine, et ensuite B, C, D, E, F, G, qu'on appelait des féries. Et donc, on sait comme ça, tout le long du mois, et pendant des années, on sait toujours quel jour de la semaine on sera. C'est intéressant de voir que l'Église offre un calendrier, impose, quand on dit offre, c'est une façon de parler, à cause du pouvoir carolingien avec lequel elle était très liée, elle a réussi à imposer un calendrier, mais qui est un calendrier basé sur la relation, le rythme entre le Soleil et la Lune. Et c'est resté, puisque même encore aujourd'hui, vous voyez, on recommence, je dirais, on continue à s'intéresser quand c'est la pleine lune, quand c'est le... etc. Alors, sur ce calendrier, on a ensuite une série de, comment dirais-je, d'informations pour chaque jour de l'année. D'une part, il y a un certain nombre de fêtes qui ont lieu, qui rappellent la vie du Christ. Pourquoi ? Parce que toujours dans la pensée du Moyen-Âge, Dieu est vivant, mais Dieu c'est Jésus-Christ, c'est lui qui était présent dans les évangiles dont on a parlé au-dessus. Donc la fête de Pâques, qui est le moment essentiel de la vie du Christ, puis c'est le moment où il meurt et il ressuscite, c'est-à-dire il meurt et il entre dans une vie nouvelle, la vie éternelle, donc comme pour nous, c'est le moment essentiel, et à partir de Pâques, on calcule tout au long de l'année, à quel moment il est né, à quel moment il a fait ceci, à quel moment il fait cela. Donc, voilà une année qui est rythmée, c'est important cette idée de rythme, rythmée par la rencontre avec la vie de Jésus-Christ autrefois. C'est d'une façon pour les gens de l'époque de dire Jésus-Christ vit avec nous, accorde. Dieu vit avec nous, accorde. Et donc il nous parle, donc il s'occupe de nous, et donc il nous donnera sans doute le bonheur. Voilà. Et puis il y a une deuxième série de notations qui sont ce qu'on appelle le sanctoral, c'est-à-dire les noms de saints, les fêtes de saints, Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Paul, etc. Mais oui, tout ça, on connaît ça, nous, sur le calendrier. Mais ce qu'on appelle cette liste des saints, elle a un sens particulier pour les gens de l'époque, c'est que ce sont les anciens de la communauté qui continuent à vivre avec nous, et on se rappelle qu'ils sont là présents. On se rappelle exactement comme nous, on se rappelle les morts de 14-18, on se rappelle l'anniversaire de l'oncle Ursule, de la tante, etc., etc. Oui. On a, donc, ces anniversaires, d'une date importante, d'un de ses anciens. Et ses anciens, évidemment, ça remonte très loin. ça remonte dans le temps parce que ça, parce que ben, l'histoire de Cordes et l'histoire de Cordes a été précédée par l'histoire de la communauté qui vivait ici et par la communauté du diocèse qu'on appelle, c'est-à-dire de l'ensemble du territoire. Et donc on a comme ça, on vit avec nos anciens, avec ces anciens qui ont été des amis de Dieu, qui ont vécu bien avec lui, puisque tout le monde a été d'accord pour dire ben ça c'était spécial, c'était des hommes qu'on pouvait imiter, un peu comme nous quand on voit les soldats du Monument aux Morts, on dit ça c'est des gars, ils y croyaient, ils ont donné leur vie pour la patrie, et donc c'est un appel à nous aussi à être sérieux avec notre engagement. On s'arrête une minute.
CFM, Normidie-Pyrénées, la voix des pays au son du rock.
Cordes 2022, Michel Bonnet. Donc, dans ce livre Ferrat dont nous parlons, il y a la troisième série de grands textes, c'est le calendrier. Et ce calendrier, bon, il faudrait que vous l'ayez sous les yeux pour qu'on puisse en parler davantage, parce que ça ne sert à rien d'aller expliquer des choses qu'on ne voit pas, vous voyez. Mais ça sera sans doute intéressant un jour de voir si ça vaut pas la peine de proposer justement une réunion avec le calendrier sous les yeux pour voir qu'est-ce que ça signifie. Il y a quelque chose qui nous intéresse et qu'il faut souligner dans ce livre Ferrat. C'est que sur ce calendrier, on voit apparaître une fête le 25 août. Et le 25 août, c'est quoi? C'est la fête de Saint-Louis, roi de France. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que le livre Ferrat n'a pas pu être écrit avant ce 25 août. Vous voyez? Ce 25 août de quelle année? Et ça, on n'en sait rien, mais Il a été mis sur la liste des saints par le pape en 1297. Donc, le livre Ferrat n'a pas pu être écrit avant cette date-là, avant la canonisation de Saint-Louis. Et vu le temps qu'il faut un peu pour que les nouvelles viennent de Rome à l'époque, vous voyez, puis que on décide en France de mettre le Saint-Louis sur toutes les paroisses, que enfin etc., etc. Ça prend du temps. Et donc on sait avec ce calendrier parce que il y a inséré dans le calendrier au 25 août la fête de Saint-Louis, on sait que le livre Ferrat n'a pu être composé pour la première fois, qu'au tout début du XIVe siècle, c'est-à-dire en 1300 et quelque chose. Oui. Et donc, ça, c'est intéressant pour nous, parce que après ce calendrier, il y a quelques pages qui donnent des explications sur la façon de calculer le carême, des choses comme ça. Bon, ça fait partie du calendrier, mais après, on change complètement d'écriture, et donc, ce sont des années après. On a ajouté ça au livre Ferrat. Donc, le livre Ferrat a été composé au début du XIVe siècle. Et là, c'est à titre, je dirais, personnel, parce que j'ai pas encore trouvé d'historien qui se soit penché là-dessus. Faut dire qu'on n'a pas de chance, mais personne n'étudie. On n'a pas de professionnel de l'histoire qui ait étudié en détail le livre Ferrat. Mais on a une date importante au XIVe siècle, c'est le 29 juin 1321. On en parlera un jour, on fera une émission certainement là-dessus. C'est le jour où l'Église, en accord avec le pouvoir politique, a reconnu Corde comme une ville à part entière. Donc c'est vraiment le moment de la fondation de Corde, vous voyez, si on peut dire, pas par Raymond VII, mais par la vie, par l'histoire. Corde est devenue une ville à l'intérieur du royaume de France, une ville normale. Et on peut dire donc que c'est vraiment la naissance de Corde à ce moment-là. Et donc vous voyez que ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait décidé à ce moment-là de mettre le livre Ferrat, parce que en plus, comme vous le savez, en 1321, les inquisiteurs qui faisaient la pluie et le beau temps à l'époque, ont obligé Corde à construire une chapelle en l'honneur de Saint-Louis, avec une statue de Saint-Louis. Et donc, ça nous ramène sur le calendrier et la fête de Saint-Louis. Donc, vous voyez qu'avec cette date de Saint-Louis et cette fête particulière, cet événement particulier du 29 juin 1321, on sait qu'on est au point de départ d'une nouvelle époque pour la vie de Corde. Ça, c'est très important. La fondation de Corde, elle a duré 100 ans, parce que finalement, 1321, c'est le premier centenaire de Corde. Hein. Nous, on se prépare au 8e centenaire, mais là, c'était le premier centenaire, même s'ils n'ont pas pensé au premier centenaire. C'était pas leur problème, sans doute, à l'époque. Donc, vous voyez, c'est extrêmement intéressant de regarder ce livre Ferrat, ça nous enseigne beaucoup de choses. Et sur l'histoire de Corde après, aussi, évidemment. Ce que je retiendrai d'intéressant particulièrement, c'est que ce livre Ferrat nous rappelle une chose, c'est que le lien étroit qu'il y avait dans les populations de l'époque entre leur vie religieuse et leur vie sociale, économique, politique, et tout ça, ça faisait un ensemble. On ne pouvait pas s'imaginer citoyen de Corde sans être aussi bon chrétien, vous voyez. Et c'est pour ça que ça nous intéresse de regarder un peu aussi l'histoire religieuse de cette époque-là. Voilà, c'était une petite introduction au livre Ferrat, qui se trouve à la mairie de Corde, exceptionnellement, puisqu'il devrait être aux archives départementales, mais Corde a reçu la permission de garder ce document extrêmement important. Je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois. C'était Corde 2022 avec Michel Bonnet.
que les deux. sur CFM.
CFM, il y a du rock.
Il y a du rock.
C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît.
C'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît.
CFM.
L'esprit rock.
L'esprit rock.